19. Moralité et abêtissement. Les mœurs représentent les expériences des hommes antérieurs sur ce qu'ils considéraient comme utile et nuisible. Mais le sentiment des mœurs, de la moralité, ne se rapporte pas à ces expériences, mais à l'antiquité, à la sainteté, à l'indiscutabilité des mœurs. Voilà pourquoi ce sentiment s'oppose à ce que l'on fasse des expériences nouvelles et à ce que l'on corrige les mœurs. Ce qui veut dire que la moralité s'oppose à la formation des mœurs nouvelles et meilleures, elle l'abêtit. 20. Libre agisseur et libre penseur. Les libres agisseurs sont en désavantage sur les libres penseurs parce que les hommes souffrent d'une façon plus visible des conséquences des actes que des conséquences des pensées. Mais si l'on considère que les uns comme les autres cherchent leur satisfaction, et que les libres penseurs trouvent déjà cette satisfaction dans le fait de réfléchir aux choses défendues, et de les exprimer, en regard des motifs, il y aura confusion des deux cas. Et en regard des résultats, les libres agisseurs l'emporteront même sur les libres penseurs, en admettant que l'on ne juge pas conformément à la visibilité la plus prochaine et la plus vulgaire. C'est-à-dire comme tout le monde. Il faut en revenir sur bien des calomnies dont les hommes ont comblé tous ceux qui ont brisé par l'action l'autorité d'une coutume. Généralement, on appelle ceci des criminels. Tous ceux qui ont renversé la loi morale établie ont toujours été considérés d'abord comme de méchants hommes. Mais lorsque l'on ne parvenait pas à rétablir cette loi et que l'on s'accommodait du changement, la tribu se transformait peu à peu. L'histoire traite presque exclusivement de ces méchants hommes qui, plus tard, ont été appelés bons. 21. Accomplissement de la loi. Dans le cas où l'observation d'un précepte moral aboutit à un résultat différent de celui que l'on avait promis et attendu, et n'apporte pas à l'homme moral le bonheur promis, mais, contre toute attente, le malheur et la misère, il reste toujours à l'homme consciencieux et craintif l'excuse de dire « On a fait une erreur dans l'exécution. » Au cas extrême, une humanité opprimée qui souffre profondément finira même par décréter. Il est impossible de bien exécuter le précepte. Nous sommes faibles et pécheurs jusqu'au fond de l'âme et profondément incapables de moralité. Par conséquent, nous ne pouvons avoir aucune prétention au bonheur et à la réussite. Les promesses et les préceptes moraux sont pour des êtres meilleurs que nous ne sommes. 22. Les œuvres et la foi. Les docteurs protestants continuent à propager cette erreur fondamentale que seule la foi importe et que les œuvres sont une conséquence naturelle de la foi. Cette doctrine n'est tout bonnement pas vraie, mais elle a l'air si séduisante qu'elle a déjà ébloui des intelligences bien autres que celles de Luther, je veux dire celles de Socrate et de Platon. Quoique l'évidence et l'expérience de tous les jours prouvent le contraire. La connaissance et la foi, malgré toutes les promesses qu'elles renferment, ne peuvent donner ni la force pour l'action, ni l'habileté pour l'action. Elles ne peuvent pas remplacer l'habitude de ce mécanisme subtil et multiple, qui a dû être mis en mouvement pour que n'importe quoi puisse passer de la représentation à l'action. Avant tout, et en premier lieu, les œuvres, c'est-à-dire l'exercice. L'exercice et encore l'exercice. La foi qui en fait partie se trouvera par surcroît. Soyez-en certains. 23. En quoi nous sommes le plus subtils? Par le fait que, pendant des milliers d'années, on a considéré les choses, la nature, les instruments, la propriété de tout genre, comme vivantes et animées, avec la force de nuire et de se soustraire aux intentions humaines, le sentiment de l'impuissance, parmi les hommes, a été beaucoup plus grand et plus fréquent qu'il n'aurait dû l'être. Car il était nécessaire que l'on s'assurât des objets, tout comme des hommes et des animaux, par la force, la contrainte, la flatterie, les traités, les sacrifices. Et c'est là l'origine de la plupart des coutumes superstitieuses, c'est-à-dire d'une partie, peut-être la plus grande, et pourtant la plus inutilement gaspillée, de l'activité humaine. Mais puisque le sentiment de l'impuissance et de la crainte se trouvait dans un état d'irritation si violent, si continuel et presque permanent, le sentiment de la puissance s'est développé d'une façon tellement subtile que l'homme peut maintenant, en cette matière, se mesurer avec le trébuchet le plus sensible. Ce sentiment est devenu son inclination la plus violente. Les moyens que l'on a découverts pour se le procurer forment presque l'histoire de la culture. 24. La démonstration du précepte. D'une façon générale, la valeur ou la non-valeur d'un précepte, par exemple celui pour cuire du pain, se démontre par le fait que le résultat promis se présente ou ne se présente pas, en admettant toutefois qu'on l'exécute minutieusement. Or, il en est autrement des préceptes moraux, car dans ce cas particulier, il n'est pas possible de se rendre compte des résultats, de les interpréter et de les définir. Ces préceptes reposent sur des hypothèses d'une très faible valeur scientifique, dont la démonstration ou la réfutation par les résultats sont en somme également impossibles. Mais autrefois, du temps où toute science était grossière et primitive, et où l'on n'avait que de faibles prétentions à considérer une chose comme démontrée, autrefois, la valeur ou la non-valeur d'un précepte de moralité sont déterminées de la même façon que tout autre précepte, en rendant attentif aux résultats. Chez les indigènes de l'Amérique russe, il y a un précepte qui dit « Tu ne dois ni jeter au feu les os d'animaux, ni les donner aux chiens. » Et on démontre ce précepte en ajoutant « Si tu le fais, tu n'auras pas de chance à la chasse. » Or, dans un sens ou dans un autre, il arrive presque toujours que l'on n'a pas de chance à la chasse. Il n'est donc pas facile de réfuter de cette manière la valeur du précepte. Surtout lorsque c'est la communauté tout entière et non pas seulement l'individu qui porte le poids de la faute. Il y aura par conséquent toujours une circonstance qui semblera démontrer la valeur du précepte.